Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Brice Couturier qu'on retrouve aujourd'hui par téléphone pour des raisons évidemment de problèmes de transport. Bonjour Brice.
Oui, je vous prie de m'en excuser, Florian.
Je vous en prie. Alors, qu'est-ce que le capitalisme de connivence et quels sont ses inconvénients? Voilà la question avec laquelle vous allez commencer.
L'expression crony capitalism, capitalisme de copinage, de connivence, donc c'est florès en anglais. Elle désigne un système dans lequel des acteurs économiques parviennent à nouer avec certains décideurs politiques des liens étroits afin de bénéficier de rentes de situation. Ces connexions permettent de réaliser à l'abri de l'État de substantiels profits qui sont ensuite partagés sous forme de pots de vin, au détriment des concurrents et bien sûr de l'intérêt général. L'ancien ministre de l'économie turque, Kemal Derviş, rencontre ce mois-ci sur le site Project Syndicate de trois livres portant sur ce crony capitalism. Un ouvrage collectif dû à des économistes arabes analyse le phénomène au Moyen-Orient. Ses auteurs cherchent à évaluer non seulement l'ampleur du phénomène pays par pays, mais ses effets mesurables sur leurs performances économiques. Le second, dû à l'économiste suédois Anders Aslund, se penche sur le cas de la Russie. Il tente de décrypter le système, décrypter le système politico-mafieux construit et exploité par Poutine en 20 ans de pouvoir. Et puis le troisième livre, il est dû à Ming-Xin Pei, et cet auteur se penche, lui, sur le modèle chinois. Mais Kemal Derviş commence par définir les deux modèles de capitalisme qui, à ses yeux, peuvent définir les rôles respectifs de l'État dans le fonctionnement de l'économie. Vous avez le capitalisme de marché et le capitalisme d'État. On dirait que personne ne sait plus à quoi pouvait bien ressembler le socialisme. Mais passons. Le capitalisme de marché à l'occidental, écrit Derviş, est généralement défini comme un système dans lequel interagissent de nombreux acteurs économiques en concurrence entre eux sur des marchés décentralisés. Le rôle de l'État s'y limite en théorie à faire respecter les droits de propriété, à réguler les marchés, à faire respecter la concurrence et puis bien sûr à fournir les services publics en les finançant par des taxes et des impôts. Dans le capitalisme d'État, celui-ci oriente les investissements vers les activités qui lui semblent prioritaires, il contrôle étroitement l'activité des sociétés privées et peut même les diriger directement en se rendant propriétaire.
Et le risque de connivence est plus élevé dans le second cas que dans le premier, Brice.
Ben oui, parce que plus le niveau d'intervention de l'État dans la vie économique est important, plus les occasions de s'enrichir grâce aux connexions nouées dans ces hautes sphères sont nombreuses. Mais il n'y a là aucune fatalité. La montée en puissance des dragons asiatiques s'est opérée sous la direction des États et cependant, chacun a su y rester à sa place. Le capitalisme de connivence est un phénomène courant dans les premiers stades du développement d'une économie. Aux États-Unis même, les barons voleurs, comme on les appelait, ont bâti leur prodigieuse fortune au tournant des 19e et 20e siècles en obtenant des États des privilèges, des régulations sur mesure, des marchés réservés. Et aujourd'hui, au Moyen-Orient, le phénomène est quasi général. Mais note, les auteurs étudiés, les effets sur les performances économiques varient selon le pays. Ainsi, la corruption plombe littéralement l'Égypte, alors que le capitalisme de copinage ne semble guère handicaper le Liban, par exemple. En Turquie, l'AKP, en arrivant au pouvoir, à favoriser les petits entrepreneurs en les aidant à tailler des croupières aux grandes compagnies déjà bien installées. Ces dernières, il faut dire, étaient politiquement liées souvent à l'ancien pouvoir. Alors, dans un premier temps, cela a eu des effets positifs sur la croissance, mais depuis, dans plusieurs secteurs comme la construction, le capitalisme de copinage a eu pour effet de gonfler artificiellement les prix. J'en viens au deuxième livre. Anders Aslund décrit les quatre cercles formés par Poutine afin de consolider son pouvoir sur la Russie. Les trois premiers, ils associent des dirigeants de l'appareil de sécurité et puis des oligarques fidèles au président. Leur sont concédés de juteux profits dans l'exploitation du gaz et du pétrole en échange d'une complète allégeance politique. Quant au quatrième cercle, il est spécialisé dans le blanchiment et l'évasion fiscale, et il est basé, figurez-vous, à Londres et dans quelques villes des États-Unis. Le système est très différent en Chine. où les dirigeants ne se considèrent pas comme les propriétaires du pays, comme c'est le cas en Russie. Mais la modernisation sous la direction du parti unique a produit une forme de capitalisme de copinage particulièrement rapace. Les connexions entre dirigeants publics provinciaux et businessmen privés sont générales. Le flou qui entoure le droit de propriété dans ce système qui se réclame du communisme autorise toutes sortes d'abus et de prévarications. Alors certes, Xi Jinping prétend lutter contre une corruption devenue endémique, mais le fait que les dirigeants n'aient pas de compte à rendre devant des électeurs, mais seulement devant leurs supérieurs hiérarchiques au sein de l'appareil du pouvoir, rend leur contrôle très difficile.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver évidemment sur le site de France Culture, www.franceculture.fr.